Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Grosse journée encore. Je sais pas pour vous, mais il y a des nouvelles qui reviennent dans l'actualité de manière cyclique, constante, qui me font... Tu sais, c'est plate, là, mais à chaque fois que je suis devant une de ces nouvelles-là, je me dis, ah, encore, hein, un autre, ça recommence. Mais il y a deux de ces nouvelles-là duquel on va parler aujourd'hui à l'émission. Ces nouvelles cycliques qui reviennent, plus ça change, plus c'est pareil, mais ça vient quand même ébranler la confiance des Québécois en certaines institutions. La première étant celle du système de la santé. On apprend ce matin, selon un recensement du journal, que les coûts pour rénover ou construire des hôpitaux explosent au Québec. Les factures grimpent pas de 10, 20, 30 $, mais des centaines de millions de dollars. C'est une nouvelle qui fait, ah, encore des dépassements de coûts et des retards dans la construction d'hôpitaux. Encore. C'est en 2022. Il me semble qu'on a eu un rapport similaire en 2021, 2020, 2019, 2018. Etc., etc., etc. Chaque fois qu'on reparle du système de santé, ben, y a des dépassements de coûts, il y a des travaux qui sont trop longs, puis ça, on pourrait l'étendre à peu près tous les chantiers qu'on fait au Québec. C'est des nouvelles un peu déprimantes, désespérantes, puis il y a personne qui sait vraiment comment on peut s'en sortir. Alors, je fais, oh, encore? C'est pas une surprise, mais ça fesse, puis ça vient pincer et à la fois envers nos institutions de construction et à la fois envers nos institutions de santé. L'autre nouvelle qui est tombée hier, qui fait l'effet d'une bombe à cause d'un nom qui s'y retrouve. Mais la chose elle-même n'est pas surprenante. Je parle de la confiance en nos institutions religieuses. Et hier, une autre action collective qui est lancée, cette fois-ci qui vise le diocèse de Québec contre des religieux, du personnel religieux, des gens en fonction du clergé qui auraient fait des agressions sexuelles. 88 prêtres, personnes du diocèse, 101 victimes cette fois-ci. Encore une fois, c'est le cabinet Arsenault Dufresne, oui, avocat, qui pilote cette action collective. Et Maître Alain Arsenault est avec moi. Bonjour, Maître Arsenault.
Oui, bonjour.
Là, tout d'abord, vous êtes là à chaque fois que dans les derniers temps qu'il y a de ces actions collectives-là. Votre nom revient, vous n'en êtes pas à votre premier rodéo, là. Votre cabinet pilote aussi l'action collective qui cible, entre autres, les Frères des écoles chrétiennes du Canada. À force d'en voir des victimes, d'en écouter, de recevoir des plaintes, est-ce que vous pensez que l'Église catholique commence à être de plus en plus ébranlée ici au Québec?
Si elle est ébranlée, elle ne le démontre pas beaucoup. Hein? Ils ne font pas de commentaires. Les médias ont tenté d'avoir un commentaire hier. Pas de commentaires. Quand on leur demande une position globale, pas de commentaires. Ce n'est que pas de commentaires. Puis lorsqu'ils sont pris à la toute fin du processus de faire des chèques, pas de commentaires. Ébranlé peut-être, mais ça ne paraît pas beaucoup.
Quand vous avez vu pour la première fois que dans cette action collective-là, vous alliez piloter, il y avait le nom du cardinal Marc Ouellet. Est-ce que vous avez fait le saut?
Pas vraiment.
Non?
C'est sûr que lorsqu'on voit un nom aussi prestigieux que cela, on se dit « Oups! » Mais ça touche tellement de prêtres. Et c'est des gens de pouvoir, il ne faut pas l'oublier. C'est des gens de pouvoir. Alors, la caractéristique première des gens de pouvoir est trop souvent d'abuser de leur pouvoir. Parce qu'une agression sexuelle comme F a subi, c'est une agression sexuelle qui fait partie d'un abus de pouvoir. Fait qu'il y a pas beaucoup de surprises.
Pas beaucoup de surprises. Tout de même, vous le dites, c'est un nom qui est prestigieux. Vous avez nommé F, qui est le nom qu'on donne à la victime alléguée dans cette poursuite. Par contre, comme vous le dites, c'est un nom prestigieux, le cardinal Ouellet. Est-ce que la démarche que vous entreprenez est différente lorsqu'on cible quelqu'un d'aussi haut placé dans l'Église ou c'est, en bon français, business as usual, vous procédez de la même manière?
On procède de la même manière, avec beaucoup d'attention pour chacun des dossiers, dont celui-là. On fait des vérifications, on va chercher des informations complémentaires, on fait signer des affidavits. Tout ça est fait là, correctement pour toutes les victimes, dont F, évidemment.
Oui, la plaignante F, dont on parle depuis tout à l'heure, elle a déjà fait parvenir en janvier 2021 une lettre au pape François, au Vatican. Elle évoquait les gestes du cardinal, entre autres. Il y a une enquête qui a été déclenchée un mois plus tard sur ces allégations-là. Est-ce qu'il y a eu suite à cette enquête du Vatican à l'interne?
Absolument pas. Depuis mars ou avril 2021, aucune réaction.
La plaignante,
pas de nouvelles. Ma cliente a tenté d'avoir une réponse. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la conclusion? Aucune réponse.
Est-ce que ça arrive souvent, ça?
Le respect des victimes, on se demande où il est.
Est-ce que ça arrive souvent, ça, Maître Arsenault, qu'il y a des enquêtes internes de l'Église puis qu'il n'y a jamais de nouvelles par la suite, ça tombe aux oubliettes?
Je vous dirais que c'est la norme. Souvent, ils déplacent les prêtres. Souvent, on ne sait pas. Régulièrement, il n'y a pas de réponse. Il y arrive parfois qu'il y a des réponses, tant mieux, mais c'est pas la norme. Absolument pas.
Ces enquêtes-là, on comprend que c'est un modus operandi qui se faisait beaucoup là dans les années 50, 60, 70 même, de déplacer comme ça des prêtres à l'interne de l'Église pour empêcher qu'ils soient ciblés justement par trop d'allégations à un endroit en même temps. Là, ce que vous me dites, ce que je comprends, là, c'est que ça, c'est pas un schéma qui est terminé. Même les enquêtes à l'interne, c'est encore, vous le dites, la norme, ça a pas... On pense que ça a changé, mais ça a pas vraiment changé dans les faits, Maître Arsenault.
Effectivement. On voit à un certain moment donné des petites choses qui font « Oups, il y a un petit quelque chose. » Mais c'est relativement rare à comparer à l'ensemble. On voit qu'il y a des gens qui voudraient bien à l'intérieur que les choses changent, mais la pression de la haute hiérarchie fait en sorte que c'est assez rare que ça bouge.
Est-ce que vous avez des échos lorsque vous faites des actions collectives comme celle-là? Vous dites, c'est sûr, vous avez dit là, dans les médias, l'Église n'a pas tendance à réagir, là, que ce soit les diocèses, que ce soit les clergés du Québécois, canadiens, voire le Vatican, ça réagit pas très, très fort. Mais vous, lorsque vous êtes hors des médias, est-ce que vous avez des échos de l'Église? Est-ce qu'il y a des prêtres? Est-ce qu'il y a des membres du clergé qui vous reviennent puis qui sont repentants, qui ont l'air d'exprimer des remords par rapport à un malaise par rapport à tout ce qui se passe?
Non, absolument pas. On voit parfois quelqu'un qui nous envoie un petit mot anonyme, qu'on comprend qu'il est prêtre, qui nous encourage à continuer, mais c'est rare. C'est relativement... C'est pas un nom, c'est très rare. Je vous dirais, depuis qu'on fait des actions collectives contre les organisations religieuses, ça nous est arrivé peut-être une ou deux fois, puis on a environ 1500 victimes dans nos dossiers. Fait que c'est rare, mais ça arrive.
L'état d'esprit des victimes, des plaignants dans tout ça, d'une fois à l'autre, peut-être dans le cas de cette action collective-ci qui nous intéresse, quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont optimistes d'obtenir compensation? Est-ce qu'ils sont cyniques par rapport à la situation actuelle? Ça ressemble à quoi?
Non, ils sont assez optimistes. Optimistes pour, je dirais, une raison principale. Ils ont dénoncé, via une action collective, ils ont dénoncé. Ils l'ont dit à des avocats inconnus au départ. Ça, c'est le début du processus de guérison. La dénonciation. D'être capable d'en parler beaucoup plus librement à des membres de leur famille. J'ai dénoncé. Ce que je traînais depuis 30, 40, 50 ans, j'ai dénoncé. Puis ça permet aussi à l'entourage de dire « Ah, maintenant je comprends. » Pourquoi telle chose? Ils peuvent en discuter. Ça, c'est le début de la guérison. Ben, c'est un processus qui ne se fait pas en 5 minutes. Ça peut prendre des années. Comme une action collective prend des années. Et à la fin, lorsque l'action collective est terminée, là, ils se disent, ils, ils réalisent tout ça, puis ils disent, maintenant, on me reconnaît, maintenant, on m'indemnise, je peux finir ma guérison. Et c'est ça qui est important. Certains pourront jamais guérir, mais d'embarquer dans un processus, c'est libérateur.
Est-ce que vous avez déjà une cible de compensation que vous voulez aller chercher avec cette action collective-ci?
On cherche une compensation comparable à ce qui se passe dans d'autres cours. Quelque chose qui est tout à fait correct. Puis ça va faire partie des négociations qui devraient s'enclencher en septembre prochain.
On a entendu un peu plus tôt là cette semaine, là, on entendait justement, ça tombe drôle de coïncidence si on veut, on entendait parler des églises catholiques là, au Québec qui n'auraient pas d'argent pour payer des indemnisations comme ça, qui se disent pris à la gorge, qui disent que c'est trop de régler toutes ces poursuites-là en même temps. Croyez-vous à ça, vous, que les coffres de l'Église sont à ce point drainés qu'ils peuvent pas indemniser les gens?
Absolument pas. Et s'ils oublient où sont leurs placements, je peux les aider à les retracer. Avant d'entreprendre une action collective, il faut être responsable. Il faut savoir s'il y a des chances raisonnables de succès sur le fond et sur les indemnisations. Si on a une congrégation religieuse et qu'on sait qu'ils n'ont absolument rien, on va pas dire aux gens, on va partir, puis vous allez rien avoir. On va avoir créé de faux espoirs. Fait qu'avant d'enclencher une action collective, on s'enseigne sur les finances. Et dans le cas de Québec, vous faites référence à un prêtre, un représentant de diocèse qui a fait des affirmations gratuites, c'est le moins qu'on puisse dire. Si c'est nécessaire, on va les aider. On va leur dire, c'est à tel endroit. Vous avez à tel endroit 76 millions.
Vous savez, parce que vous avez analysé tout ça, là, vous le savez qu'ils ont des placements, qu'il y a de l'argent qui est placé, des actifs, j'imagine, un peu partout. Tout ça, vous l'avez recensé, puis vous dites c'est gratuit, là, ce que lui disait plutôt cette semaine. C'est ce que je résume?
Oui, c'est un show de boucan préliminaire à une négociation. Ils pensent qu'on va dire ils n'ont pas beaucoup d'argent. Bon, non. L'argent, ils en ont en masse. C'est pas un problème. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut 76 millions demain matin. Ça va dépendre du nombre de victimes qui vont s'inscrire, d'où l'importance de s'inscrire. Un règlement pour 100 personnes, c'est une chose. Évidemment, un règlement de 200 personnes ou 300 ou 400 personnes, c'est plus important. Mais à un moment donné, l'action collective fait en sorte qu'à la fin du processus, il y a une clôture puis il y a une quittance générale à la fin du processus. Si quelqu'un veut s'inscrire après, il va être trop tard. Il ne pourra pas s'inscrire à l'action collective et il ne pourra pas faire une action personnelle.
Les gens ont jusqu'à quand pour s'inscrire, Maître Arsenault?
Elle n'est pas encore déterminée, mais il y a des avis qui vont avoir lieu avec des délais précis. D'après moi, ça ne sera pas avant 2023, mais d'où le message qu'on fait dans ce genre de dossier-là. Inscrivez-vous rapidement parce que si c'est trop tard, vous allez perdre des recours, vous allez perdre des droits. Fait inscrivez-vous rapidement. Dans le dossier de Québec et dans tous les autres dossiers, Trois-Rivières, Amos, les Oblats, les Frères des écoles chrétiennes, l'Instruction chrétienne, inscrivez-vous, c'est important, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez recevoir une indemnisation.
Et que justice soit, du même coup, en partie rendu. Je résume, Maître Arsenault, aux gens, votre message, inscrivez-vous, n'ayez pas peur, puis l'Église a en masse assez d'argent pour venir vous indemniser. Maître Alain Arsenault, avocat au cabinet Arsenault Dufresne, oui, avocat, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci, au revoir.